Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense.
Nous sommes en guerre.
Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade.
Nous sommes en guerre.
Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
Nous sommes en guerre.
Lorsque tu vas sur une mine de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays. C'est pour la magie.
Nous sommes en guerre.
Vous êtes contrôlé combien de fois par mois ?
Par jour. Moi,
par jour ?
Minimum 4 fois par jour.
Et vous faites quoi ?
Je vends de la drogue.
Nous sommes en guerre.
Nous dérangeons les trafiquants.
Nous sommes en guerre.
On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision.
Mais réveillez-vous aussi, les journalistes. Réveillez-vous, enfin.
Nous sommes en guerre.
Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio. La transparence fiscale des multinationales pourra-t-elle réellement se faire dans l'Union européenne ? C'est la question que nous allons nous poser dès le début de cette émission, au lendemain de l'adoption par le Parlement européen d'une directive sur la transparence fiscale des multinationales, un texte que certains nous présentent comme historique, alors que d'autres, comme l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, considèrent qu'il est vidé de sa substance. Elle sera avec nous dans un instant pour en parler. Nous évoquerons ensuite la Libye avec la journaliste d'investigation Rumiana Urgachinska. La Libye au cœur d'une conférence internationale aujourd'hui à Paris avec une ambition, garantir la présidentielle prévue le 24 décembre. Or, à un mois et demi de ce scrutin, le pays est toujours plongé dans le chaos politique et sécuritaire. Et puis à 13h, nous reviendrons sur la gestion de la crise sanitaire. Nous recevrons le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch. Son livre « Une démocratie endeuillée » vient de paraître aux éditions RS, bien entendu. Vous réagissez à nos discussions sur les réseaux sociaux, vous nous appelez au 0826 300 300, on revient tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Voilà, la transparence fiscale des multinationales pourra-t-elle réellement se faire dans l'Union européenne ? C'est la question que nous posons tout de suite avec notre invité Maxime.
Oui Arthur, nous recevons Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Bonjour à vous. Afin de lutter donc contre l'évasion fiscale, le Parlement européen dans lequel vous siégez, a voté hier de nouvelles règles obligeant les grandes multinationales à déclarer publiquement les impôts qu'elles paient dans chaque pays de l'Union européenne. Concrètement, les entreprises aux revenus annuels dépassant 750 millions d'euros devront établir des déclarations publiques. Et cette transparence est censée permettre de vérifier que les impôts payés correspondent bien à des activités réelles et donc d'identifier des montages d'évasion fiscale. Ça, c'est sur le papier, Manon Aubry. Car concrètement, ce que vous nous dites-vous, c'est qu'il y a des failles qui vont clairement permettre à ces multinationales de passer à travers les mailles du filet.
Oui, malheureusement, l'idée essentielle que l'on défendait depuis des années avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam,
oui.
Et ça fait une dizaine d'années qu'on défend ce concept de transparence. En gros, les évadés fiscaux, c'est un peu comme des vampires, ils détestent la lumière. Donc si on les met dans la lumière, ça devient visible. On n'attend plus des scandales qui reposent sur le courage de lanceurs d'alerte et on connaît enfin leur montage d'évasion fiscale. Sauf que l'idée initiale, qui est indispensable, a été dévoyée en introduisant deux failles principales dans le dispositif. La première, c'est que les entreprises n'auront à donner des informations sur leurs activités et les impôts payés que dans une quarantaine d'États. En gros, dans 80% des États dans le monde, elles pourront continuer à faire ce qu'elles veulent. Donc, autant vous dire que les montages fiscaux ont encore de beaux jours devant eux. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, ils ont introduit une deuxième limite qui fait qu'elles auront 5 ans pour publier leurs informations. Donc, on aura les informations que 5 ans après, si elles jugent que leurs informations sont soi-disant sensibles commercialement. Donc, vous voyez qu'en réalité, le résultat final est très loin de l'objectif annoncé. Et ça, c'est le fait d'une chose principale, et je termine là-dessus. Si le texte a été affaibli à ce point-là, c'est le résultat du lobby du MEDEF, puisqu'on a découvert dans les négociations auxquelles j'ai participé que la France a ni plus ni moins que copier-coller sa position sur celle du MEDEF, qui demandait précisément d'introduire ces deux failles et qui manifestement a obtenu gain de cause, malgré notre mobilisation, la mobilisation de mon groupe au Parlement européen.
Alors cette directive adoptée hier par le Parlement, elle nous était pourtant présentée comme historique au mois de juin, au moment où un accord final a été trouvé entre les négociateurs des différentes institutions européennes. Vous venez un peu de l'évoquer, on a justement une enquête de Mediapart publiée ce matin sur les négociations qui ont lieu au sein des institutions européennes autour de ce sujet de la transparence fiscale. Mediapart qui a eu accès à 2500 documents secrets liés à ces négociations. Est-ce que nous dit clairement le site internet, c'est que la France depuis 20 ans n'a cessé en fait de freiner des quatre fers pour ne pas avancer dans cette lutte contre l'évasion fiscale.
Oui, malheureusement, il y a déjà un premier paradoxe, c'est quand même de négocier tous les dossiers liés aux questions d'évasion fiscale, dont le cœur du problème est l'opacité, et on négocie tous ces dossiers dans l'opacité la plus totale, donc sans aucune transparence. Donc, il y a quand même un énorme problème. Et ce sur quoi pointe le doigt Mediapart, c'est un groupe qu'on appelle le code de conduite. Je suis sûre qu'aucun de vos auditeurs n'a jamais entendu parler de ce groupe. Pourtant, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps sur les questions fiscales au niveau européen. C'est lui qui décide, par exemple, la liste européenne de paradis fiscaux. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans cette liste européenne de paradis fiscaux, il n'y a que 9 États, dont Palaos ou le Vanuatu, qui ne sont pas vraiment les grandes plaques tournantes de l'évasion fiscale au niveau international. Mais évidemment, il n'y a pas les véritables paradis fiscaux, les îles Caïmans, les Bahamas, Jersey, Guernesey, etc. Et dans ces négociations au niveau européen, oui, la France n'a cessé d'être un caillou dans la chaussure et de faire obstruction en faisant y compris alliance avec des paradis fiscaux pour bloquer les avancées en la matière. Et le résultat aujourd'hui n'est pas surprenant quand on voit à quel point il est difficile d'agir contre l'évasion fiscale au niveau européen.
Est-ce que vous qui travaillez sur ce sujet de l'évasion fiscale depuis quelques années maintenant, vous avez eu accès à ce groupe d'experts dont on vient de parler? Vous les connaissez?
Non, malheureusement. Alors ce groupe, il existe depuis 1996, si ma mémoire est bonne. Et le Parlement européen, même bien avant que j'y siège, et depuis que j'y siège aussi, c'est un de nos sujets les plus importants, on a de cesse de demander des choses aussi simples que la composition et les comptes rendus. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses dans un cadre démocratique européen. Mais rien, absolument rien ne fuit, si ce n'est le résultat final, qui est par exemple la liste européenne de paradis fiscaux que je vous donnais à l'instant, et qui est absolument ridicule et pas à la hauteur, et sur laquelle nous, les représentants démocratique, nous n'avons aucune prise. Et ça, ça doit finir parce qu'on ne mettra pas un terme à l'évasion fiscale si ceux qui décident n'ont eux-mêmes aucun intérêt à faire bouger les choses. Le dernier scandale des Pandora Papers, il révélait notamment qu'il y avait plus de 35 chefs d'État et ex-chefs d'État qui étaient directement impliqués. Et quand ces gens-là ont des représentants directs, dans ces groupes, je pense le ministre de l'économie et des finances aux Pays-Bas, par exemple, qui était directement impliqué dans les Pandora Papers. Ce ministre, lui, siège à ce type de réunion. Il est évident qu'il n'a aucun intérêt à agir contre l'évasion fiscale. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre la main, reprendre le contrôle sur ce groupe. Je pense, si vous voulez mon avis, qu'il faut complètement le dissoudre et remettre un cadre démocratique pour gérer les questions de lutte contre l'évasion fiscale au niveau européen.
Alors, est-ce que ce texte, cette directive adoptée hier, elle contient au moins quelques avancées, selon vous?
Alors, c'est une victoire symbolique, je dirais, parce que, pour vous tout vous dire, quand on a commencé à travailler sur la question de la transparence, c'était il y a une dizaine d'années, avec mes collègues d'ONG à l'époque, quand on avait avancé le principe de ce qu'on appelle le reporting pays par pays, donc qui est cette obligation faite aux entreprises de publier leurs informations sur leurs impôts payés dans tous les pays où elles sont présentes. On était pris pour des fous. Non, ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Bon, depuis, il y a énormément de scandales qui, malheureusement, nous ont donné raison sur la nécessité de ces informations. Et si vous voulez, c'est une brèche qui est ouverte. Et c'est une victoire qui démontre la nécessité d'avoir ces informations. Mais comme souvent, en fait, les libéraux, aidés par les lobbies, sont extrêmement bons en général pour voler les concepts, les principes et les vider de leur substance. Le résultat étant qu'ils vont prétendre agir contre l'évasion fiscale en disant « Mais regardez, vous avez eu ce que vous voulez, on a un reporting pays par pays. » Et derrière, on va leur dire « Bah non, en fait, vous appelez ça vraiment de la transparence quand on a des informations uniquement pour 20% des États dans le monde, quand les entreprises pourront continuer à cacher leurs activités aux îles Caïmans, aux Bahamas, en Suisse, à Singapour, à Hong Kong. Bref, je ne vous fais pas la liste complète. Non, c'est absolument pas de la transparence. Mais avec ça, ils vont donner l'illusion d'agir, l'illusion qu'on a réglé le problème. Et tout le monde va oublier la question de l'évasion fiscale. On ne va certainement plus en parler dans les prochaines semaines, jusqu'au prochain scandale. Où là, on va se dire, ah ben mince, c'est vrai que quand même, on a encore des multinationales comme Amazon ou Facebook, des riches fortunes comme Bernard Arnault qui ne payent pas leurs impôts. Bah oui, si vous ne faites rien, de fait, ils vont continuer à exploiter ce système qui est fait pour eux, tout droit fait pour eux, et qui leur permet aujourd'hui encore de se soustraire à leurs obligations, alors que vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, bah, on paye nos impôts, on n'a pas de l'argent caché en Suisse ou ailleurs. C'est le fait d'une toute petite minorité, mais qui nous fait perdre des milliards d'euros chaque année.
Et concrètement, dans le programme du candidat que vous soutenez pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il y a de concret pour lutter contre ce phénomène d'évasion fiscale? Qu'est-ce que vous entendez mettre en œuvre, les Insoumis, si vous arrivez au pouvoir en 2022?
D'abord, je veux faire passer un message. Dans la lutte contre l'évasion fiscale, il n'y a pas de fatalité. Il y a des solutions politiques. Et on ne doit pas attendre que les 27 États membres, y compris avec des paradis fiscaux comme l'Irlande et les Pays-Bas, on se mette d'accord sur des mesures. On peut en mettre en place de manière unilatérale. Et je vais vous en donner quelques-unes pour lesquelles il faudrait une semaine pour les mettre en œuvre. Une liste crédible de paradis fiscaux qui liste l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, etc. Deuxièmement, cette transparence fiscale, elle n'a pas été faite complètement au niveau européen. Nous assumerons de le faire complètement au niveau français pour toutes les multinationales qui sont sur le sol français. Et enfin, le troisième étage de la fusée, qui serait celui qui serait le plus efficace, qui est ce qu'on appelle un impôt universel. Où que vous déplaciez votre argent, en fait, en réalité, on récupérera de manière unilatérale, en France, l'argent qui nous est dû en calculant le manque à gagner entre votre taux d'imposition au niveau international, est-ce que vous payez véritablement en France? Et là, oui, on aura les capacités, les moyens de récupérer les 60 à 80 milliards d'euros qui manquent chaque année à l'État français. Pour donner une idée, c'est l'équivalent du budget de l'éducation. Donc, on pourrait bien en faire des choses avec ça.
Donc, ça, c'est le modèle américain.
Oui, ça existe en effet aux États-Unis. De manière très concrète, quand vous êtes un citoyen américain, si vous allez travailler n'importe où dans le monde, ce que vous avez parfaitement le droit, évidemment, vous devez quand même remplir des documents liés à votre citoyenneté et qui vous obligent à déclarer combien vous payez dans le pays où vous êtes. Et en gros, vous payez la différence avec ce que vous auriez dû payer si vous étiez sur le sol américain. Ça, on peut le faire pour les particuliers, mais aussi on peut le faire pour les entreprises, puisque les administrations fiscales, c'est des informations qui ne sont pas publiques, mais les administrations fiscales ont accès à ces informations liées aux bénéfices, au chiffre d'affaires, au nombre d'employés, qui nous permet véritablement de savoir où est-ce que l'entreprise a son activité économique réelle et donc où est-ce qu'elle devrait être imposée. Et à travers ce système d'impôt universel que les États-Unis vont aussi mettre en place pour les entreprises, on peut récupérer une somme conséquente d'argent pour les finances publiques françaises. Et à l'heure où on se demande qui va payer la crise ou à l'heure où le gouvernement et Macron font la chasse aux chômeurs, eh bien nous assumerons de plutôt faire la chasse aux évadés fiscaux.
Alors, vous prenez donc une action unilatérale, on l'a compris, de la France en la matière. Et on imagine déjà que les entreprises françaises vont vous dire que ça va poser un problème de concurrence pour elles. Elles ne vont pas avoir les mêmes méthodes pour optimiser leurs revenus que leurs concurrentes européennes. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Deux choses. D'abord, la concurrence aujourd'hui, elle est déloyale pour les petites entreprises. Vous prenez le bar au coin de votre rue. A priori, il n'a pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors que Starbucks va en avoir. Je peux prendre un autre exemple, votre librairie au coin de votre rue, en général, vous pouvez lui poser la question, ils n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors qu'Amazon localise tous ses bénéfices au Luxembourg. Donc aujourd'hui, la compétition, elle est déloyale vis-à-vis des petites entreprises, et il s'agit de rétablir une compétition qui soit équitable entre les plus petites et les plus grandes entreprises. Et deuxième élément de réponse, aux entreprises qui menaceraient de quitter le sol français et le marché économique français, pensez-vous sérieusement qu'un jour Google ou Facebook ou Amazon vont se priver du marché économique français? Parce que même avec les impôts qu'on leur demanderait de payer, qui est juste une part équitable d'impôts. Vous, moi, nous tous, nous payons leurs impôts. Il n'y a pas de raison que les grandes entreprises n'en payent pas. En réalité, elles feront quand même des bénéfices et elles auront quand même un intérêt financier à être présentes sur le territoire français. Donc, je pense que ça se passera très bien. Et comme nous, on ne fait pas les choses dans le dos, on annonce d'ores et déjà la couleur. Si nous sommes au gouvernement, oui, nous irons récupérer l'argent qui est planqué dans les paradis fiscaux. Mais ça tombe bien. Derrière, ça nous permettra, par exemple, je ne sais pas, de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, les pâtes, la farine, le sucre, etc. Ce que des millions de gens ont besoin et dont on aurait bien besoin certainement que les prix baissent, par exemple.
Est-ce que vous pensez qu'on peut tout de même avancer au sein de ces institutions européennes ? On évoquait tout à l'heure ce comité d'experts autour de ce code de conduite. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avancer ? Ou alors est-ce que l'institution Union européenne dans sa globalité telle qu'elle existe aujourd'hui est sclérosée et on n'arrivera jamais à progresser, à avoir des discussions qui arrivent véritablement à donner des résultats sur ce sujet de l'évasion fiscale ?
La difficulté sur ces questions au niveau européen, c'est que sur toutes les questions fiscales, il faut l'unanimité des États membres. Dit autrement, il faut l'accord de pays comme l'Irlande ou le Luxembourg pour avoir des mesures de lutte contre l'évasion fiscale. On a du mal à imaginer que ces États seraient d'accord avec ces mesures. Et donc, avec cette règle de l'unanimité, ça rend les choses extrêmement compliquées. Par contre, ce dont je suis convaincue, c'est que si demain, nous arrivions au pouvoir et nous mettions en place, par exemple, le dispositif que je vous décrivais tout à l'heure d'impôt universel sur les particuliers et les entreprises, alors on pourrait engager dans notre sillage d'autres États qui seraient intéressés de faire la même chose, voir que ça marche, et ça pourrait entraîner une dynamique, un cercle vertueux au lieu d'avoir un cercle vicieux comme on l'a à l'heure actuelle où les États se font la concurrence fiscale vers le bas. Et ce serait plutôt une concurrence fiscale vers le haut, une coopération. Et je suis convaincue que derrière, des États comme l'Italie, l'Espagne et bien d'autres seraient intéressés par ce type de dispositif. Et on pourrait même imaginer des coopérations renforcées qui entraîneraient, je l'espère, et en tout cas je le souhaite, à terme, un maximum d'États membres de l'Union européenne. Mais ce dont je suis convaincue, c'est que si on attend que les 27 se mettent d'accord, alors on va continuer à perdre chaque année des centaines de milliards d'euros. Et ça, je ne m'y résous pas. Et d'où le fait que nous proposons d'avancer en attendant unilatéralement, en espérant bien sûr être un maximum dans les années qui viennent.
Parce qu'autour des discussions autour de la directive qu'on évoquait tout à l'heure, vous n'avez pas senti beaucoup de possibles avancées avec vos confrères députés européens des différentes oppositions ?
Malheureusement, ce que je regrette, c'est que les autres groupes européens, si vous voulez, ont refusé de mener la bataille, ont lâché très vite et ont accepté les demandes qui étaient formulées par les États membres, et notamment la France, d'introduire ces failles dans le dispositif, alors même que le Parlement européen avait été plus ambitieux. Et donc, c'est vrai que je le regrette, notre groupe a été le seul à déposer des amendements pour revenir sur les failles de ce dispositif et proposer une transparence qui s'applique véritablement à l'ensemble des pays du monde et à l'ensemble des paradis fiscaux. Trop souvent, si vous voulez, le compromis l'emporte sur l'efficacité du dispositif et en la matière, malheureusement, il sera loin de porter tous les fruits attendus.
Merci beaucoup Manon Aubry. Je rappelle que vous êtes député européen. Vous l'avez rappelé, vous avez travaillé pour l'organisation caritative Oxfam. Et si vous voulez réagir au propos de notre invité, 0826 300 300. Dans un instant, on évoque le cas libyen. Une conférence internationale est organisée aujourd'hui en France autour d'Emmanuel Macron pour évoquer la Libye. Vous savez, pays instable 10 ans après la mort de Muammar Kadhafi. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Midi 34 sur Sud Radio. On va parler de la Libye. Peut-on enfin espérer de la stabilité en Libye ? Pour nous en parler, nous sommes avec Rumiana Ogartinska, journaliste d'investigation et essayiste. Vous avez coécrit avec Rosario Prior ce livre « Pour la peau de Kadhafi » aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous et merci d'être avec nous. On a donc aujourd'hui une conférence internationale sur la Libye qui se tient à Paris avec une ambition, c'est assurer le processus électoral. La présidentielle est censée se tenir en Libye dans un mois et demi maintenant, le 24 décembre. Roumiana Urgaczyńska, est-ce que à ce stade, ce calendrier électoral vous paraît tenable ?
Il sera tenable s'il y a pour cette fois une véritable volonté et une cohésion de la communauté internationale pour maintenir ce scrutin et surtout pour faire accepter les résultats de ce scrutin. Ce n'est un secret pour personne. Ces élections n'enchantent pas un certain nombre d'acteurs, que ce soit au plan international ou sur le plan local. Mais ce n'est pas la première fois, en effet, que des élections sont prévues, promises aux Libyens. Et les Libyens veulent ces élections. Ils en ont assez de cette période de troubles, de conflits, de guerre, de présence de groupes islamistes et terroristes, car bien entendu ce chaos est un aimant pour ce genre d'organisation. Et ils sont convaincus que le seul moyen de sortir de l'impasse, de l'imbroglio, des conflits politiques locaux, régionaux, internationaux, géopolitiques, géostratégiques, c'est qu'on leur permette de s'exprimer et de choisir, eux, par les urnes, ce qu'ils ont fait tout de même à deux reprises depuis la chute de Kadhafi en 2012, puis en 2014. Les rivalités sur le terrain et, il faut l'avouer, l'ingérence d'un certain nombre de groupes internationaux, de pays, n'ont pas aidé à stabiliser les résultats, ont permis à certains de les rejeter, y compris en 2014, la capitale a été prise par les armes, le Parlement a élu, a dû fuir Tripoli. Et donc la communauté internationale encourage un processus démocratique tout en sachant que c'est extrêmement difficile pour un pays qui, d'une part, n'a pas de tradition démocratique, n'a pas d'institution, et est en proie à une instabilité, à des groupes armés. Il est évident qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Donc on ne les a pas aidés à confirmer et à stabiliser les résultats de ces élections en 2012, encore moins en 2014. Et il est évident qu'aujourd'hui encore, si la communauté internationale se permet d'agir de la sorte, on est reparti pour une décennie d'instabilité, voire des guerres encore plus sanglantes que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en Libye.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de la réunion qui est prévue aujourd'hui à Paris, cette médiation internationale qui est composée de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et des Nations Unies et également de la Libye? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de cette réunion? Est-ce que concrètement, comment la communauté internationale peut garantir ce processus étant donné la situation, vous l'avez dit, toujours chaotique sur le plan politique et sécuritaire en Libye?
Ça va être très très compliqué, d'autant plus que des acteurs majeurs dans le conflit libyen, à savoir la Turquie, qui a des forces militaires sur place, n'est pas là. L'Algérie sera représentée, mais le président ne viendra pas. Or, l'Algérie quand même est un facteur régional de stabilité et de sécurité qui n'est certainement pas négligeable. De ce point de vue-là, on va avoir du mal à pérenniser les décisions de cette conférence. D'un autre côté, il y a une volonté aussi d'avancer sur la partie sécuritaire, sur la partie du cessez-le-feu et du retrait des forces mercenaires et étrangères, et ça, c'est un aspect crucial pour que le pays se stabilise et pour qu'ensuite, après les élections, certains groupes armés ou forces politiques ou organisations politiques locales ne soient tentés de se servir de ces hommes en armes pour, encore une fois, comme en 2014, faire échouer les résultats de ces élections. Donc cet aspect du retrait des mercenaires, du retrait des forces étrangères est crucial. Apparemment, ce sera l'une des priorités de cette conférence à Paris. Il y aura d'ailleurs une rencontre en marge du sommet entre le ministre des Affaires étrangères français et russe en présence des ministres de la Défense, et ce sera très probablement pour discuter du retrait des forces
des mercenaires russes. Selon l'ONU, il y en a 20 000 actuellement en Libye, des mercenaires de ce groupe privé russe Wagner.
Non, selon l'ONU, il y a 20 000 mercenaires au total en Libye.
Ah oui ? Voilà. Ils ne sont pas tous russes.
Non. Loin de là. Les mercenaires russes ont été évalués par ces rapports à environ 2000, mais ils sont redoutablement efficaces, parce que c'est un groupe militaire privé qui enrôle d'anciens soldats et officiers des troupes spéciales russes, donc ils sont vraiment très très bien... Très bien formés, très très bien équipés, donc leur efficacité est redoutable. Et puis de l'autre côté, vous avez également plus de 10 000 en tout cas mercenaires syriens qui ont été envoyés en Libye du côté de Tripoli pendant le conflit en Tripoli, mais qui sont restés et qui eux ont été enrôlés par l'équivalent de Turc, de Wagner, une société militaire privée qui s'appelle Sadat, qui est dirigée par un proche d'Erdogan. Donc là aussi, certes, ce sont des contrats privés. On peut se dire qu'à partir du moment où ces contrats sont annulés et qu'on ne paye plus et qu'on organise le retrait de ces mercenaires, le problème devrait être résolu. Mais là, il faudra quand même que ce soit fait avec la bonne volonté des États concernés, à savoir la Russie et la Turquie. Or, la Russie et la Turquie ont tenté depuis plus de 2 ans maintenant, de prendre la main sur le dossier libyen et d'être ceux qui vont dicter la solution, d'être les initiateurs des pourparlers de la solution, de façon à extraire le dossier des mains des Occidentaux, de la communauté internationale telle qu'elle est constituée autour de la Libye et de l'ONU, et pour en tirer leur avantage chacun avec les priorités qui sont les siennes. Ce qui fait que cette affaire de mercenaires est cruciale. Ajoutez à cela qu'il y a un accord qui a été donc signé entre le gouvernement de Tripoli d'il y a 2 ans, donc le gouvernement de M. Sarraj et le gouvernement turc pour une aide militaire et une coopération militaire. Accord sur lequel l'ONU ne s'est pas prononcé. Il n'a pas dit est-ce que c'est légal, est-ce que ce n'est pas légal, est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal. Or, pour avoir un tel accord qui soit reconnu, qui soit pérenne, il aurait fallu que le Parlement libyen le ratifie et l'examine. Or, ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est comme tout ce qui s'est passé en Libye depuis 10 ans. Vous avez un certain nombre de documents, d'accords qui sont signés,
oui.
Sur lesquels il y a des accords, mais qui ne sont jamais respectés et dont la légalité même est contestable. Que ce soit les accords de Sirat au Maroc qui ont amené une sorte de solution en 2015-2016, une série de décisions n'ont pas été respectées, n'ont pas été appliquées. De même, plus récemment, lors des pourparlers qui ont été organisés sous l'égide de l'ONU à Tunis et à Genève, on a constitué une sorte de panel représentatif qui se voulait représentatif des Libyens avec 75 membres pour former un forum de dialogue politique qui en fait a voté qui aller diriger le pays pendant la zone de, la période de transition pour organiser les élections. Tout ce qui s'est passé lors de ce forum a été entaché de beaucoup de polémiques. Il a même été dit que certains membres avaient été achetés. L'ONU a promis qu'il y aurait une enquête et des sanctions, et c'est un an qu'on les attend.
Merci Romiana.
Pour vous donner quelques exemples.
Tout à fait. Vous restez avec nous, on continue d'en parler jusqu'à 13h. Nous avons Alexandre qui nous appelle au 0826-300-300, nous appelle de la Drôme pour discuter avec vous de ce sujet libyen. Et on se retrouve dans 2-3 petites minutes. A tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde.
Midi 49 sur Sud Radio, Roumiana Ougarchinska est toujours avec nous. On parle de la Libye, vous êtes journaliste d'investigation, essayiste, et vous avez écrit ce livre « Pour la peau de Kadhafi » aux éditions Fayard, Arthur.
Oui, Roumiana Ougarchinska, quel est le rapport de force aujourd'hui en Libye? On a le sentiment aussi qu'il a relativement peu évolué ces dernières années, entre d'un côté toujours le gouvernement d'Union Nationale, même si c'est plus Fayez El-Sarraj, mais Abdelhamid Deba qui en a pris la tête. Et puis toujours ce général Khalifa Haftar, c'est figé ces positions-là ou ça a évolué ces derniers temps sur le terrain en Libye?
Alors oui et non, dans les faits il y a un cessez-le-feu après donc le conflit à Tripoli qui s'est déroulé sur plusieurs mois.
Et, l'année dernière
Voilà, l'année dernière, qui donc s'est terminée par un cessez-le-feu en au début de l'année 2020, et les forces de l'armée nationale libyenne, donc commandées par le Khalifa Haftar, se sont retirées de Tripoli et ont établi une sorte de ligne rouge au niveau de Sirte, donc au milieu du pays. A priori, les forces sont disloquées d'un côté et de l'autre. Alors, si on décompte les forces libyennes en armes et constituées en armée avec chaîne de commandement, etc., etc., l'avantage est à l'est, bien, très clairement, y compris parce que comme cette armée s'était engagée dès 2014 à combattre les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique et a combattu donc ces groupes-là dans l'est avec très peu de moyens et peu d'aide. Mais même non officiellement, ce qui a été le tort quand même de la communauté internationale, à peu près tout le monde a aidé cette armée, que ce soit la France, on le sait, mais également les États-Unis, l'Italie, etc., etc. Donc, il y a eu un effort assez important et d'équipement, même si on était sous embargo. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie et de formation. Le général Haftar a ouvert tout de suite les anciennes écoles de formation de soldats, d'officiers, et il y a tous les 6 mois, tous les ans, des contingents qui sortent, mais qui intègrent l'armée, là, avec un numéro, avec tout ce qu'on peut demander pour une structure avec une chaîne de commandement.
C'est-à-dire que c'est lui, le maréchal Haftar, qui est mieux placé peut-être aujourd'hui pour remporter les élections dont on parle?
Alors, moi, je vous parle des forces militaires, oui. Pour le moment. De l'autre côté, vous avez aussi des militaires, mais en nombre bien, bien moindre. Et vous avez surtout les myriades de milices dont les fidélités sont fluctuantes en fonction du moment, en fonction des intérêts, sans compter que certains chefs de milice sont impliqués dans des trafics divers ou alors sont proches de certains groupes islamistes. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à unifier. L'enjeu depuis le début en Libye, c'est justement que faire de ces milices, comment les désarmer, comment les intégrer dans un appareil sécuritaire unifié. Et on n'en sort pas, c'est toujours le problème. C'est l'un des problèmes cruciaux, la clé de l'instabilité en Libye. Et aujourd'hui, on en est toujours au même point. Ce qui fait que demain, ces milices, si elles sont pas d'accord avec les élections, elles peuvent faire comme en 2014, prendre d'assaut des bureaux de vote ou assassiner des activistes. En 2014, on avait assassiné une dame qui avait une très grande popularité, une avocate, Salwa Boukratis, le jour des élections. Et évidemment, on faisait régner la terreur pour empêcher les gens de voter. Par rapport à la popularité et aux chances des différents candidats qui se présentent, là, l'affaire est un petit peu différente parce qu'on rentre dans une... Allô ?
Oui, on vous écoute.
Il y a un bruit. Parce que là...
On va peut-être vous interrompre, Roumiana Hourgatchinska, parce qu'on a un auditeur qui et il ne reste plus beaucoup de temps, veut vous poser une question.
0826 300 300, il y a Alexandre qui veut vous poser une question, qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
J'écoute il y a un sacré moment et le sujet est tellement complexe.
C'est vrai, vous avez raison.
Même en essayant de prendre un maximum de hauteur, et Dieu sait que je suis monté haut, je le vois encore plus. Ce que je vois me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. Juste une toute petite parenthèse. Hier encore, je ne sais plus pourquoi, je me souvenais, il y a une quarantaine d'années, je vais faire 62 ans là dans un mois, avoir lu quelque chose disant à propos d'un livre que la Troisième Guerre mondiale viendrait du continent africain. Quelques années plus tard, j'ai essayé de retrouver ce bouquin et l'auteur. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais rien retrouvé. Ça, c'est la parenthèse. Mais en parlant de toute cette auteur, je me rends compte que ce que décrit madame, c'est ce qui se passe aussi dans un nombre incalculable de pays en ce moment. Nord-africain, et j'ai le fait que les USA et la France et d'autres pays se soient mêlés et voulu...
Alexandre, je suis désolé, il nous reste très peu de temps. Si vous avez une question, c'est juste pour...
Okay.
Oui.
Est-ce qu'elle, d'après elle, est-ce qu'il est possible de régler ce genre de problème à partir du moment où des petits pays qui avaient de la puissance, comme la France... et d'autres, l'Italie, l'Angleterre et d'autres pays, perdus. La France n'a plus aucune puissance du tout, les autres pays non plus, à part un peu la Russie, de moins en moins les USA.
Merci. Comment Alexandre, je suis désolé, mais si on veut entendre une réponse de Roumiana Hourgatchinska, il faut vous interrompre. Roumiana Hourgatchinska, peut-être sur la baisse d'influence des puissances évoquées par Alexandre, est-ce qu'elles sont vraiment à même de changer la donne aujourd'hui en Libye ?
Écoutez, aucune des puissances ne peut régler le problème toute seule, ni la France, ni même les États-Unis tout seuls, sans convaincre les autres acteurs, à savoir la Turquie et la Russie, soyons clairs. Donc c'est un enjeu international, de géopolitique internationale, c'est un bras de fer, il va falloir le gagner d'une façon ou d'une autre, parce que la Libye nous concerne, effectivement, ça continue à se déstabiliser, ça va traverser la Méditerranée. On voit très bien que toute la déstabilisation du Nord africain est liée au chaos libyen. Ajoutez à cela les flux migratoires qui ne sont pas contrôlés et qui traversent donc la Méditerranée principalement à partir de Tripoli, de la partie ouest. Donc, sans compter également que la Libye
merci beaucoup,
est un Roumiana très gros
Hourgatchinska,
producteur d'énergie.
Obligé de s'arrêter là, c'est passionnant. On vous réinvitera certainement pour reparler de cette situation.
Absolument, on continuera d'en parler. Tout de suite, nous accueillons Emmanuel Hirsch, il est l'auteur de Une démocratie en deuil, on parlera du Covid, c'est aux éditions RS, à tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Et bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour.
Vous publiez donc ce livre, Une démocratie endeuillée. C'est en fait la suite d'un autre ouvrage publié en janvier dernier, La démocratie confinée. Et c'est finalement la même démarche dans ces deux ouvrages, c'est-à-dire des chroniques écrites tout au long de cette crise sanitaire, dans lesquelles vous développez des aspects éthiques. Et votre principal constat dans ce dernier ouvrage, Démocratie endeuillée, c'est de dire que nous sommes aujourd'hui dans une société endeuillée, 119 000 morts des suites du Covid au total en France à ce jour. Et nous sommes finalement dans une société qui n'a absolument pas fait son deuil. C'est-à-dire que, selon vous, jamais nous sommes dans l'analyse de ce qui se passe depuis le début de cette crise sanitaire.
D'abord, merci de l'invitation. Quand je dis qu'on est dans une démocratie endeuillée, oui. Endeuillée aussi de beaucoup d'illusions. On a été très vulnérabilisés hein, à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de notre vie individuelle, au niveau de nos certitudes. Et donc, ce n'est pas uniquement le deuil des victimes qu'on déplore, qui sont nombreuses. Il n'y a pas que les personnes qui sont décédées, il y a leurs familles qui sont touchées. Il y a les personnes malades qui n'ont pas pu se faire traiter, qui n'ont pas bénéficié d'accueil qu'ils auraient pu attendre de la part notamment de l'hôpital. Et vous voyez, en matière de cancérologie, les conséquences que ça va avoir et qui seront tragiques. Puis, il y a aussi un deuil, me semble-t-il, du point de vue de la vie démocratique, parce que après le premier confinement, on était moins dans l'urgence, on aurait pu attendre un certain nombre d'initiatives en termes de débats de société. Et au moment où on est dans la perspective d'échéances importantes, qui touchent à la vie de la démocratie, on voit que le débat s'est radicalisé. Et que l'envie de démocratie, on a le sentiment qu'il s'est un petit peu estompé. Alors que pendant des mois, on a eu des solidarités. On a eu, j'allais dire, un rapport à l'autre qui n'était pas discriminant, qu'il soit migrant ou qu'il soit, j'allais dire, vulnérable. On a été vraiment dans des solidarités extrêmement fortes. Donc je dis, c'est ce deuil. Et quand vous êtes endeuillé, il faut surmonter un deuil. Et pour surmonter un deuil, il faut d'abord analyser ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, la perte, les douleurs. Et puis ensuite, être dans des initiatives vis-à-vis du futur. Et donc, je dis, on ne se met pas aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu, dans une capacité de surmonter réellement tout ce qui a été défi, épreuve. Alors que beaucoup de choses exceptionnelles se sont passées. Et je reproche qu'il n'y ait pas eu un inventaire. Vous savez que le président de la République a confié à Didier Pittet un rapport,
oui.
Qui est un rapport très intéressant sur à la fois ce qui s'est passé et comment se préparer à d'autres situations de crise. Et l'axe 3 du rapport de Didier Pittet, c'est très rapidement, il faut créer une concertation au niveau de la société pour essayer de diagnostiquer, d'une certaine manière, avec une méthodologie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien ou mal passé. Encore une fois, ma critique, et j'en termine là-dessus, elle ne va pas contre le gouvernement. Je pense que chacun a fait ce qu'il pensait devoir faire. Ma critique, c'est que on aurait pu enrichir le processus gouvernemental décisionnel d'un certain nombre d'expertises qui n'étaient pas réductibles à l'expertise scientifique. Donc il fallait mobiliser la société. Et aujourd'hui, à quelques jours peut-être d'une cinquième vague, je ne sais pas ce que le concept de vague signifie, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt à aborder des difficultés ? Si demain, on avait un ravage plus important, une dévastation plus importante, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire face ? Et de quelle manière, encore une fois, notre démocratie sera résiliente ?
Parce que finalement, pour revenir à cette gestion de crise sanitaire, vous nous dites que vous comprenez que c'était finalement difficile à gérer, mais vous dénoncez quand même dans votre ouvrage une gestion de crise quand même très solitaire, un peu dans le huis clos de l'Élysée.
C'est-à-dire que la gouvernance erratique n'est pas liée à la pandémie. Vous savez, moi j'avais travaillé, j'avais sorti un gros ouvrage collectif sur le H1N1. On avait travaillé l'hypothèse d'une crise importante entre 2006 et 2009 qui n'est pas heureusement arrivée. Et en fin de compte, il y a tout un ensemble de textes nationaux, des textes préparatoires internationaux, des textes d'OMS qui disent quand on se prépare à une pandémie, il faut se préparer à la gouvernance de la pandémie et créer un rapport de confiance entre la société, les scientifiques et ceux qui gouvernent. Pour qu'il y ait un rapport de confiance, il faut que chacun soit reconnu dans ce qu'il peut apporter à la lutte, soit reconnu dans ce qu'il vit, ce qu'il éprouve, notamment en prenant en compte les personnes les plus vulnérables, ce qui a été le cas de la part du gouvernement français, mais également dans le partage de l'information. Et vous voyez, quand vous faites d'éthique, moi je suis professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay, Vous mobilisez un certain nombre de valeurs et de critères dans le diagnostic et puis aussi dans les lignes d'action. Et Claire Hédon, la défenseure des droits, a dit récemment que le gouvernement décide, c'est sa responsabilité, mais qu'on sache quels sont les critères d'arbitrage. C'est-à-dire, quand vous avez une gouvernance, vous devez pouvoir la justifier. Et vous devez être loyal. Vous devez prendre des mesures proportionnées. Je vais vous donner, pour pas donner le sentiment que je suis dans les généralités, un exemple qui m'a frappé. Il y a eu donc le vote, il y a quelques jours, de la loi, en quelque sorte, qui va prolonger un certain nombre de dispositifs en termes de sécurité sanitaire et de vigilance. Et il y avait un article qui concernait les directeurs d'école, les directrices d'école,
oui,
qui devaient être en capacité de connaître le statut virologique et de savoir si l'enfant était vacciné ou pas.
Et
le Conseil constitutionnel, le 9 novembre, a remis en cause et donc a censuré ce dispositif. Ça pose la question des fondamentaux, c'est-à-dire quelle est la proportionnalité, la justification d'une décision. Peut-être que dans une situation extrême, la mise en cause, comme ça a été le cas du secret professionnel de la part des médecins, peut-être que ça pourrait être justifié. Vous voyez, ce qui est important, c'est de se concerter et d'avoir des clarifications pour savoir au nom de quoi on motive une décision. Le président de la République, dans son allocution du 9 novembre, nous annonce que les personnes au-delà de 65 ans devaient absolument bénéficier de la troisième dose. Et je trouve que c'est un privilège dans notre pays. On dise des personnes vulnérables parce qu'elles sont très âgées ou parce que leur immunité, j'allais dire, n'est pas la même que des personnes jeunes et donc ont plus besoin que d'autres d'accéder à la vaccination. Je trouve que c'est plutôt un privilège et c'est plutôt une bonne chose. Mais d'assortir la vaccination en disant que les personnes qui ne seraient pas vaccinées le 15 décembre se verraient dans l'interdiction de bénéficier de leur passe sanitaire, vous voyez que du jour au lendemain, ces personnes-là, en particulier, n'auraient plus le droit de bénéficier de ce à quoi on peut accéder à travers le pass vaccinal, pour moi, est de l'ordre de la discrimination. Et il n'y avait pas de justification, pour deux raisons. D'abord, beaucoup des personnes qui sont des personnes d'un certain âge et qui maintiennent une vie sociale sont extrêmement prudentes à l'égard de leur santé et souvent hésitent même à sortir et s'autoconfinent. C'est une réalité à prendre en compte. Et d'autre part, celles qui sont les plus concernées. On dit, oui, il y a un certain nombre de personnes au-delà de 70 à 74 ans qui n'ont pas été vaccinées, qui n'ont même peut-être pas eu le premier vaccin.
Oui.
Interrogeons-nous pour savoir qui sont ces personnes. 900 000 d'entre elles, dit le médecin, l'association des petits frères des pauvres, sont en situation de vulnérabilité, de désocialisation. Donc la problématique de l'accès à la vaccination n'est pas à prendre d'une manière homogène, comme s'il y avait une population homogène de personnes de 65 ans et plus.
Oui.
Et d'autre part, vous ne caractérisez pas une personne par rapport à son âge. Regardez à quel point la mobilisation de nos aînés est importante dans la vie publique, dans la vie associative, dans la vie familiale. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de mesures, alors vous vous dites, mais en quoi c'est proportionné de dire que c'est justifié et proportionné de dire que des personnes, parce qu'elles ont 65 ans, devraient être assignées à résidence si elles ne se sont pas vaccinées, j'allais dire, une troisième fois, alors que vous avez aussi des professionnels de santé qui pourraient avoir la même justification d'être vaccinés. Et pourquoi c'est pas 50 ans? Bon, vous voyez, ce type...
Finalement, cette problématique
ça, c'était pour dire,
de discrimination, est-ce qu'elle ne concerne pas toute la population à travers ce pass sanitaire?
Non, mais vous savez, moi je m'interroge, comme citoyen, oui, pourquoi le chef d'État a décidé de cette annonce? Il aurait pu très bien dire, 65 ans, il faut se faire vacciner. En plus, les gens, on parle de responsabilisation. C'était pour menacer les autres, en disant, vous savez, si demain vous ne vous faites pas vacciner, vous serez dans les mêmes conditions. Parce que, de fait, la vaccination est devenue obligatoire, si on veut. Et donc, plutôt que de dire qu'on fait,
avec le
pass vaccinal ou sanitaire, une espèce de régulation, et regarder à quel point les interventions du chef de l'État sont productives de ce point de vue-là, puisque chaque fois qu'il y a une menace, les gens se précipitent.
Oui.
Plutôt que d'avoir cette démarche, qui est à mon avis une démarche très discutable d'un point de vue éthique, responsabilisons les gens. Mettez les uns et les autres en capacité de montrer et de comprendre à quel point c'est un acte de citoyenneté, la vaccination, c'est un acte de solidarité, c'est un acte aussi militant d'un point de vue démocratique. On se vaccine pour soi et pour les autres. Essayons de comprendre aussi pourquoi certains sont réticents, sans être pour autant a priori discriminants. Quelque chose qui m'a choqué, encore une fois, je suis pour la vaccination. Quelque chose qui m'a vexé et vraiment est choqué pour aller beaucoup sur le terrain, c'est qu'un certain nombre de professionnels, et je pense notamment du médico-social, des personnels aussi d'EHPAD, qui avaient été très très engagés et qui avaient pris énormément de risques dans un contexte, rappelez-vous, au départ, où ils n'avaient même pas de protection. Mmh. Du jour au lendemain, on les a stigmatisés avec, l'absence d'un accompagnement qui aurait pu permettre, d'une certaine manière, plutôt que de leur donner ce sentiment d'être négligeable et d'être à ce point péjoratif par rapport à la mobilisation, plutôt que d'avoir une attitude plus nuancée. Bref, moi je suis contre les discriminations, et d'autant plus dans le contexte politique actuel, où il est trop facile de créer la partition entre les uns et les autres, sur des critères sanitaires, sur des critères sociaux. Bref, je pense qu'il faut être plus attentif que jamais à la rigueur dans le discours politique.
Parce que là, on touche à une question essentielle que vous abordez à travers votre ouvrage, c'est comment arriver à ce que finalement la société se mobilise d'elle-même, j'ai envie de dire sans coercition. On a l'impression que depuis le début de cette crise sanitaire, c'est vrai que c'est l'État qui décide de tout.
D'abord, on nous a trompés, vous savez, comme dit une humoriste célèbre, on ne nous dit pas tout. Et je m'insurge contre certains éléments de langage. Quand on a dit les Français ne voulaient pas se faire vacciner, étaient réfractaires, sur quelle base a-t-on dit ça? Sur quelle évaluation? Je pense qu'il y a une telle défiance des politiques, des responsables de l'État, qui ont des charges lourdes vis-à-vis de la société, qui ne comprennent même pas que nous avons une société qui, au quotidien, se responsabilise. Je donne un élément qui, pour moi, est fondamental dans mon analyse. Vous avez vu que dans l'ouvrage, je ne suis pas uniquement dans la critique, j'essaie d'argumenter.
Oui.
Et je ne suis pas uniquement dans la critique vis-à-vis de ce qui a été fait. Je reconnais aussi ce qui a été fait de positif. Moi, je suis né aux questions d'éthique dans les années SIDA. Donc, une pandémie importante, avec une mobilisation de la société, avec une réponse associative qu'on n'a pas eue et qu'on aura par la suite, parce que maintenant, il y a des associations, par exemple, sur les Covid longs qui reprennent toute une culture. Donc, on est dans un après qui va, à mon avis, transformer totalement le paysage sociopolitique. Mais dans les années SIDA, ça a été la responsabilisation des uns et des autres. Ça a été une mobilisation qui a abouti à la démocratie en santé, la démocratie sanitaire, la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Qu'a-t-on fait en termes de démocratie sanitaire, si ce n'est de bafouer tout un dispositif qui existe? Je pourrais vous détailler, je le dis dans le livre, mais vous avez le milieu associatif qui aurait pu être allié et, j'allais dire, partenaire dans certaines décisions. Quand vous avez la dialyse au quotidien, enfin, en tous les cas, à prendre 3 dialyses par semaine, quand vous êtes atteint d'une maladie chronique, quand vous êtes en tête d'une situation de handicap, angoissé pour savoir est-ce que vous allez bénéficier ou pas des moyens qui vous permettront de survivre s'il y a une complication. Il y avait toutes ces alliances. On a une conférence nationale de la santé. On a ce qu'on appelle des CRSA, c'est-à-dire des dispositifs régionaux sur autonomie et santé. Tous ces dispositifs ont été balayés. Et en fin de compte, on a une prise de décision qui a été individuelle, celle du chef de l'État, confinée dans un conseil de sécurité sanitaire, avec une expertise, qui est l'expertise notamment du conseil scientifique, qui est plus une expertise biomédicale, qui est appréciée, prise en compte selon une décision qui est tout à fait discutable. Regardez, le président de la République, le 9 novembre, nous parle des plus de 65 ans, puis nous dit aussi, ça va être les 50-64 ans, selon quelle argumentation scientifique. Même les instances qui auraient pu se prononcer sur la pertinence de ce choix n'ont pas été encore, prises en compte, puisque leur conclusion n'était pas rendue. Donc on est, et encore une fois, je ne mets pas en cause une gouvernance difficile dans un contexte d'incertitude, dans un contexte de peur sociale, de menace, auquel s'ajoute le côté géopolitique que vous évoquiez encore tout à l'heure dans votre première partie.
Oui.
Donc je dis, précisément parce qu'il y a énormément d'incertitudes, il faut créer les conditions pour que la société adhère en confiance et non pas en faisant du nudging. Vous savez, en matière de numérique, comment on fait de la pression? Comment, d'une certaine manière, on incite les personnes sans qu'elles soient totalement partie prenante de leur choix. Je dis, on mérite mieux dans une démocratie moderne. Et s'il y a une telle souffrance démocratique aujourd'hui, c'est parce que, aujourd'hui, je pense, un certain nombre de personnes ressentent ça comme du mépris politique, du mépris.
Vous restez avec nous, on va revenir dans quelques petites minutes, quelques petites secondes même. Vous nous appelez aussi pour participer à cette discussion, 0-826-300-300.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde.
13h23 sur Sud Radio, on continue de parler de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement avec Emmanuel Hirsch, qui est président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique à l'Université Paris-Saclay. Vous avez sorti ce livre, Une démocratie endeuillée, aux éditions RS.
Oui, Emmanuel Hirsch, je voulais vous faire réagir à ces chiffres. Les patients Covid n'ont représenté que 2% au total des hospitalisations en France en 2020 et seulement 5% des admissions en soins critiques, chiffres très commentés sur les réseaux sociaux. Ils proviennent d'un rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation. Alors, on nous dit qu'ils ne suffisent pas à rendre compte, en fait, de l'impact réel de l'épidémie sur l'activité hospitalière, car ils ne tiennent pas compte, notamment, de la durée des hospitalisations qui a été plus longue pour les patients Covid. On nous dit aussi que cette pression hospitalière liée à la pandémie n'a pas été constante sur toute l'année. Mais Emmanuel Hirsch, tout de même, est-ce que ces chiffres vous interpellent? Est-ce que, finalement, on n'a pas surévalué l'impact de cette épidémie de Covid par rapport à d'autres pathologies, par rapport à d'autres maladies?
Arthur Delaborde, vous avez déjà quasiment répondu à cette question. D'abord, il faut être très vigilant dans l'usage qu'on fait des chiffres et la signification des chiffres, oui, et le ressenti qu'on peut avoir. Alors, effectivement, dans les chiffres, notamment dans les services de soins critiques, il y a eu à peu près 8% de personnes atteintes de Covid qui ont été accueillies pour des longs séjours. Donc ça a eu un impact. En plus, on regarde au niveau national, alors que l'impact a été par région plus fort dans certaines régions. On l'a vu quand même à travers l'histoire, malheureusement, de 19 mois de Covid. La région Île-de-France, PACA, l'Est ont été plus impactés. Donc, le poids sur les services a été à prendre en compte d'une manière différenciée. Ce qu'on oublie de prendre en compte aussi, c'est les personnes qui ont été déprogrammées ou qui ne sont pas allées consulter.
Oui.
Et c'est à prendre aussi en compte, j'allais dire, dans l'analyse de la situation, puisque on sait à quel point on est dit que c'est entre 20 et 30% selon les périodes, y compris dans des périodes où on avait une certaine forme de sérénité, 20 à 30% de personnes qui n'ont pas été hospitalisées. Alors pour en revenir à vos chiffres, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'abord qu'il y a eu une super mobilisation des équipes qui ont travaillé au-delà de leur capacité. C'est toutes ces mobilisations, avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui, notamment dans le sentiment d'injustice et de méconnaissance qui s'éprouve au niveau de l'hôpital. Donc pour répondre globalement, je pense que tout n'est pas une question de chiffres, c'est aussi une capacité d'accueil et une capacité de bien soigner. Et si vous regardez, de mon point de vue, qui est l'éthique, ce qui me semble le plus difficile aussi à prendre en compte et qui n'est pas chiffrable, si ce n'est aujourd'hui par le départ d'un certain nombre de professionnels dans des EHPAD qui fuient ou dans les hôpitaux publics, ce qui est à prendre en compte, c'est que le soin, la qualité de l'engagement, ce n'est pas uniquement du chiffre, c'est vraiment du temps passé auprès de la personne dans de la relation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, comment les équipes ont compensé. Et donc, au-delà des chiffres qu'on indique, je pense qu'il y a à chiffrer aussi, à quantifier, mais c'est très difficile à faire, le poids, le surpoids, à la fois pour les équipes dans les hôpitaux, mais également pour les personnes malades, pour les familles. Et le fait aujourd'hui, c'est une conséquence à prendre en compte du Covid-19, qu'un certain nombre de personnes ne bénéficient pas de l'accueil dont ils auraient pu bénéficier si le dispositif avait été à la hauteur des enjeux. Donc, pour redire les chiffres, leur signification, il faudra prendre aussi du recul. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la mortalité dans les hôpitaux, puisque la mortalité liée à la Covid-19 est de l'ordre à peu près de 16 à 17% dans les chiffres qu'on a aujourd'hui. Donc, ça serait un petit peu indécent, comme je l'entends certains médecins aujourd'hui s'exprimer sur certains forums publics, en disant « il ne s'est rien passé ». Soyez rassurés, cette espèce de révisionnisme, alors qu'on est encore en pleine réalité, me semble non seulement indécent, inconséquent, mais assez vain.
Emmanuel Hirsch, vous restez avec nous jusqu'à 14h. Nous avons Laurent de Bordeaux qui nous appelle au 0826-300-300. On en parle après ça.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde.
13h31 sur Sud Radio, Emmanuel Hirsch nous fait l'amitié d'être avec nous jusqu'à 14h. Il est président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay. Il sort ce livre « Une démocratie endeuillée » aux éditions RS. On file tout de suite comme promis au standard avec Laurent qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
On vous écoute.
Bah, écoutez, j'ai écouté attentivement tout ce qui vient d'être dit, pour lequel je partage beaucoup de choses. Et moi, j'ai un avis qui est un peu plus tranché notamment par rapport aux patients Covid actuellement, parce que d'après ce que je lis dans les médias, a priori à l'hôpital, il y aurait 90% des gens qui sont non vaccinés. Et moi, par rapport à ça, si c'est la réalité, ben j'attends plus de fermeté de la part du gouvernement concernant le vaccin, parce que je supporterai pas que quelqu'un de ma famille ou de mes proches puisse manquer de soins à cause de gens qui ont refusé le vaccin pour une idéologie ou parce qu'ils sont pris pour des médecins ou pour de la défiance politique. J'ai vécu cette expérience à titre personnel, puisque mon père a fait un infarctus pendant le Covid, et on a eu un mal fou à trouver une place à l'hôpital. Alors, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, mais il aurait pu mourir dans l'ambulance du SAMU. Ça, je veux que ça se produise pour personne, en fait. Donc, moi, j'attends un peu plus de fermeté, qu'on puisse sortir de cette crise avec le vaccin. OK, le vaccin, ça n'empêche pas d'avoir la Covid, mais ça empêche les formes graves, et a priori, ça empêche d'aller à l'hôpital. Et les gens qui en ont besoin pourront se faire soigner. Les gens qui ont besoin pour une cause de cancer ou d'autres maladies importantes.
Emmanuel Hirsch, c'est une vraie question déontologique.
D'abord, je trouve que Laurent de Bordeaux, que je salue, dit les choses comme il les ressent, et comme beaucoup d'entre nous les ressentent. Nous ne sommes pas responsables politiques, et on peut s'imaginer les dilemmes auxquels le chef de l'État est confronté, parce que mettre en place une obligation vaccinale, outre le côté un petit peu arbitraire que ça pourrait donner à penser, c'est quand même quelque chose de très délicat. Je me permettrai juste à Laurent, mais en deux instants, de lui dire un dilemme qui lui permettra d'éclairer la situation du point de vue de l'éthique médicale. Vous avez des patients qui ont besoin de greffe, par exemple de foie, qui sont des personnes qui sont des alcooliques, pour prendre un exemple précis. C'est poser la question, est-ce qu'une personne alcoolique peut ou non bénéficier d'une greffe d'organes? Elle a une hépatite fulminante, peu importe, quelle que soit la raison. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas imputer à la personne une responsabilité qui ferait qu'elle n'aurait pas les mêmes droits que d'autres. Donc c'est ça aussi le critère de justice. Maintenant, je pense qu'on est dans une société où l'exemplarité est importante. On a aujourd'hui en France 76,7% des personnes qui se sont fait vacciner. Mais il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées qui adoptent des mesures aussi de précaution. C'est-à-dire, on voit à nouveau, et c'est dans l'actualité, que les mesures, laver les mains, la distanciation, le port du masque sont tout à fait indispensables parce que le vaccin a aussi ses limites. Donc, c'est pas parce qu'une personne, a priori, n'est pas vaccinée qu'elle ne prend pas des mesures de précaution. De la même manière, c'est pas parce qu'une personne a 65 ans ou 70 ans qu'elle n'est pas en capacité elle-même de s'approprier les dispositifs de prudence. Elle le fera d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles beaucoup davantage parce qu'elles savent que leur vie en société est un fil qui est fragile. Donc, je réponds à Laurent qu'il a tout à fait raison. Et si on avait eu un débat de société publique, c'est-à-dire qu'on aurait pu argumenter à travers des états généraux. Vous savez que le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le gouvernement pour l'organisation de concertations représentatives citoyennes de la société. Il y a eu un certain nombre de réflexions qui ont été montées, notamment sur le pass sanitaire. Si vous regardez les conclusions sur le site du Conseil économique, social et environnemental, vous verrez que le gouvernement n'en a pas tenu compte. Donc, à un moment donné, le politique arbitre, tranche. Et je termine pour dire que si demain la situation devenait encore plus catastrophique, est-ce que le côté, j'allais dire, plutôt incitation qu'obligation sera encore soutenable? Et dernier point, nous avons en France le privilège aujourd'hui de bénéficier de vaccination. Regardez les pays du monde aujourd'hui qui nous envie. Donc, qu'on considère aussi que c'est une chance de notre démocratie et des choix politiques, des stratégies vaccinales qui ont été menées, de nous permettre aujourd'hui de se poser la question. Alors, malheureusement, dans d'autres pays, malheureusement, d'autres personnes ne peuvent pas se poser.
Oui, parce que cette vaccination aussi, elle a pu susciter des doutes, en partie aussi avec les incohérences qu'on a connues, les injonctions contradictoires tout au long de cette crise sanitaire de la part du pouvoir politique, on se souvient des masques, des tests, les conflits aussi entre les différents experts sur la vaccination. Ça n'a pas participé à créer un véritable climat de confiance.
Je pense que vous posez une question qui est très importante. On a, et c'est quelque chose qui est aussi un dilemme pour le gouvernement, je disais la loyauté. En ce qui concerne la vaccination, on a quand même une grande transparence. C'est-à-dire, vous avez, même sur un site que je ne citerai pas, qui est un site qui est fait par des jeunes qui ont été extrêmement entreprenants et qui est un site de référence, vous avez toutes les indications sur le nombre de doses disponibles, comment elles sont réparties. Et vous avez, comme jamais, ça s'est fait dans l'histoire, puisque on peut dire aussi que la vaccination a un petit peu quelque chose d'expérimental. Rappelez-vous, c'est pas anecdotique, le 9 novembre 2020, que Pfizer et BioNTech annoncent leur première étude. Oui, il y a un an, d'accord. Et on est dans une phase qu'on peut, et certains le considérer un peu expérimentale, puisque c'est une innovation fondamentale en matière de l'approche vaccinale. Mais regardez ce qu'on appelle la sécurité vaccinale. C'est-à-dire les précautions au niveau international, tout est observé. La pharmacovigilance adaptée à la vaccinovigilance n'a jamais été à un tel niveau d'exigence. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Vous voyez, quand vous faites de l'éthique médicale, mais dans les décisions politiques, regardez, ça a été souvent dit ces derniers mois, avantages, inconvénients. Et il est évident, et je donne juste un chiffre qui m'a beaucoup impressionné, c'est, pour pas prendre la France, même si des chiffres ont été souvent produits à cet égard, mais un chiffre qui était mis d'une publication internationale concernant Israël, où on a fait apparaître qu'il y a 14 fois plus de risques d'être en réanimation si on n'est pas vacciné que si on ne l'est pas. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Chacun doit apprécier ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la société. Ce discours de responsabilité, qui est un discours de démocratie, aurait dû être posé plus haut. Et je pense qu'il y a eu effectivement le pass sanitaire qui a été, j'allais dire, imposé. Je pense que ce que vous dites, Laurent, méritera une réflexion en soi. C'est pour ça que j'aimerais qu'on ait un retour d'expérience et que des personnes comme vous puissent apporter vos arguments et qu'il y ait des contre-arguments.
Effectivement.
Laurent, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, j'entends bien l'argument sur la personne alcoolique, etc., qui n'a pas forcément choisi, hein, puisque j'ai déjà entendu cette contre-argument qu'on m'a opposé, mais bon, maintenant, je crois qu'on est aussi on a tous envie d'en sortir, et que je trouve aussi que ça fait partie de la solidarité nationale d'aller se faire vacciner pour se protéger soi et les autres.
Vous avez, Laurent, puisque vous avez une expertise forte, vous avez quand même observé qu'un des points saillants de la critique que vous induisez, c'est la question de l'expertise scientifique. Et vous avez vu à quel point certains médecins ont été porteurs d'un discours qui a fragilisé le discours de la préconisation de la vaccination. Et même si ça a été d'une manière, j'allais dire, subreptice, quand vous avez certaines figures scientifiques ont été très médiatisés, voire surmédiatisés, sur lesquels on revient aujourd'hui avec une critique qui est tout à fait fondée, vous voyez à quel point ça a été difficile de tenir un discours recevable alors que vous étiez dans des controverses, même si elles n'étaient pas soutenables. Donc il faudra interroger aussi toutes ces stratégies un peu perverses qui se sont mises en place au moment où les gens avaient besoin de clarification. Mais nous sommes dans une société du risque. Il va falloir qu'on admette, qu'on assume et qu'on intègre le fait qu'on est exposé à des risques et qu'il faut savoir, à un moment donné, décider pour soi et pour les autres. Et le gouvernement, dans ce domaine, a assumé ses responsabilités.
Alors peut-être qu'on peut évoquer un autre risque, c'est celui de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Ça vient d'être autorisé aux États-Unis, ça nourrit un vif débat en France et plus largement en Europe, et ça pose là aussi des enjeux sur le plan déontologique, sur le plan éthique, qui sont relativement inédits.
Tout à fait. Alors les enjeux ne sont pas totalement inédits parce que on a des débats, vous savez que l'enfant ne peut pas consentir, hein, il est mineur,
oui.
Mais lorsque par exemple on propose à un enfant un traitement expérimental, quand on l'inclut dans une étude clinique, on a de plus en plus décidé qu'il était fondamental de l'associer à la décision. Et sans être dans des aspects un peu difficiles, mais regardez, en fin de vie, l'enfant a beaucoup de lucidité. Et vous avez vu que dans certains pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, Pays-Bas, Belgique, l'enfant, quand on considère qu'il a la capacité de discernement, est associé à la décision, y compris de l'euthanasie. C'est pour vous dire que la maturité de l'enfant dans la maladie interroge d'une certaine manière, on dit 18 ans, âge légal, est-ce qu'il n'y a pas aussi une capacité de se prononcer quand on est plus jeune, si on est en capacité de le faire? Donc ça, c'est un premier point, c'est la notion de consentement. Et de plus en plus, on développe, je ne vais pas le faire maintenant, j'ai fait un article dans le JDD il y a quelques jours, sur l'assentiment. Un deuxième point, alors, pour moi, aussi fondamental, donc pour les parents, effectivement, il y a un dilemme, hein, en disant, est-ce qu'on doit imposer ou pas? Mais l'enfant, il vit en société, c'est-à-dire il est membre de la collectivité. Et il y a tout un discours sur sa citoyenneté et toute une pédagogie de la responsabilité partagée. Je vois mal, vous voyez, c'est quelque chose, encore une fois, qui renvoie à nos personnes de 65 ans. En termes de justice, le fardeau doit être partagé, entre guillemets le fardeau, s'il y a une charge. Les risques doivent être partagés. Et s'il s'avérait demain que c'est protecteur pour l'enfant, qu'il n'y a pas de risque, c'est en tous les cas les évaluations qui vont, et que c'est bienfaisant pour l'ensemble de la collectivité, au nom de quoi on retrancherait uniquement sur des questions d'âge, c'est la même chose pour les personnes âgées. Donc, moi, je n'ai pas à me prononcer sur les critères scientifiques, mais dans l'arbitrage des parents, il doit être concerté avec l'enfant quand il est en capacité de discernement, et de voir à la fois son bien-être, d'accord, en quoi ça peut lui être favorable. Et regardez un dilemme éthique qui n'a pas l'air négligeable. Si des parents, au niveau de leurs convictions, s'opposent, pour des raisons non pas idéologiques, mais leurs convictions, je ne veux pas être péjoratif, à ce que leur enfant soit vacciné alors qu'il est dans un contexte qui le justifie. Pour exemple, il y a des contextes de morbidité, parce que, par exemple, l'enfant est obèse. Enfin, il peut y avoir... quelle est l'instance qui va arbitrer de l'intérêt supérieur de l'enfant? Vous voyez, c'est une question importante. Et en matière, par exemple, de médecine, on dit qu'une personne vulnérable qui serait exposée à un risque supplémentaire du fait de ses enfants, on doit faire un signalement au procureur de la République. Vous voyez, la maltraitance. Mais il peut y avoir aussi une maltraitance à l'enfant quand son intérêt direct n'est pas pris en compte. Oui. Donc tout ça pour répondre par rapport à votre question. C'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est une question qui touche aux vulnérabilités. Et de la même manière qu'on parle du consentement de la personne adulte, qui a été quelquefois mis entre parenthèses dans les EHPAD, hein, pour les personnes notamment atteintes de maladies neurodégénératives, qui ne sont plus en faculté de discernement, je pense que c'est une question qui doit être posée publiquement. C'est-à-dire, ce n'est pas d'une manière discrétionnaire ou dans l'urgence qu'on doit prendre la décision. Dernier point par rapport à des questions de fond. On dit on est dans l'urgence, le gouvernement n'a pas le choix. On nous fabrique aussi de l'urgence, parce qu'on pouvait aussi anticiper qu'on n'était pas sur une ligne tranquille, qu'on pouvait avoir nouveau des assauts et des nouvelles confrontations. Ce qui se passe aujourd'hui est augurateur, en quelque sorte, auguratif de quelque chose qui peut être difficile dans les mois qui viennent. En quoi l'a-t-on préparé? En quoi, socialement, s'est-on concerté? En quoi s'est-il pas été ou pas intégré au débat parlementaire qu'on a eu sur la loi sur la vigilance sanitaire? Donc je dis, à un moment donné, prenons les choses au sérieux. On est une société, on l'a vu à travers vos émissions, mais j'écoute souvent vos interlocuteurs qui sont les auditeurs, c'est la société. Ils ont à la fois quelquefois des attitudes extrêmement entières, très, très profondes, qui touchent à ce qu'ils sont, mais ils ont aussi une intelligence du réel. C'est l'intelligence de la société. Qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence collective? Et je le dis d'autant plus au moment où on rentre dans des périodes difficiles, dans la perspective de la présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait de l'expertise de terrain? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a gagné dans le contexte difficile de la crise? Y compris, qu'est-ce qu'on fait de l'expertise des gens aujourd'hui qui sont les endeuillés? Il y a des gens qui ne s'en remettent pas par la méconnaissance ou la non-reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, c'est tout un ensemble de questions. Ça vous paraît un peu de la parole. Je vais beaucoup sur le terrain. Et je dirais que ce qui me frappe, et ça va complètement à l'encontre, de, à mon avis, du sentiment du gouvernement, ce qui me frappe, c'est que chaque fois que je vais sur le terrain pour discuter dans des débats et quelquefois dans des formations, j'explique quelles sont les valeurs dans le contexte d'une pandémie. Il y a quelques jours, c'était avec des infectiologues. Il y a quelques jours, c'était au ministère de la Santé avec des gens de la démocratie en santé. Les gens ne sont pas dans la récrimination par rapport au gouvernement. Ils sont dans un apprêt en disant comment tirer compte de ce qu'on a fait pour être plus en capacité demain de faire front en démocrate.
Emmanuel Hirsch, vous parlez de nos auditeurs, et bien ils ont encore beaucoup de questions à vous poser. On prendra notamment après ça Jean-Paul de Draguignan, et on remercie Laurent de Bordeaux de nous avoir appelé au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde.
13h49 sur Sud Radio, Emmanuel Hirsch est toujours avec nous. Il est l'auteur de ce livre, Une démocratie endeuillée, aux éditions RS. Et on continue avec nos auditeurs, avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Vous avez une réaction suite au propos de notre invité. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à votre invité. Écoutez, c'est une émission très intéressante que j'ai pris en cours. Moi, j'ai un avis, si vous voulez, partagé sur la vaccination. Mmh. Je suis vacciné, j'ai eu mes deux doses de vaccin. Mais par contre, je reconnais à tout un chacun le droit à ne pas se faire vacciner. Je pense que dans notre démocratie, la liberté doit rester quelque chose d'important, de pesé, de réfléchi, mais qu'en conscience, chacun doit être libre dans ce domaine d'agir comme il l'entend. De plus, je considère qu'il y a eu de graves erreurs de nos dirigeants, que ce soit du ministre de la Santé ou du président de la République, par la manière dont ils ont abordé les choses et la manière dont ils se sont, adressés aux Français. Il y a eu un grand mépris, une grande forme d'arrogance, je trouve, et un grand manque d'explication dans la manière où on n'a pas ressenti que l'on était considéré comme des adultes qui pouvaient réfléchir aussi à la manière dont ils voulaient être soignés. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus productif de laisser les médecins aussi soigner autrement. Et je pense qu'on aurait pu amener les personnes à accepter le vaccin d'autant plus facilement qu'ils auraient eu un choix différent. Voilà ce que je pense. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, à la manière dont ça a été abordé. Et je suis toujours resté triste pour les personnes qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu les voir avant leur décès. Oui. Tout cela a été lamentable et reste pour moi quelque chose de terriblement dramatique. Voilà ce que je voulais dire.
Je voulais dire à Jean-Paul, d'abord, que je trouve son exposé, la manière dont il dit les choses, tout à fait remarquable. Mmh. C'est ce que j'appelle l'intelligence. Voilà, l'intelligence qu'on a beaucoup négligé, l'intelligence de la personne qui est en société, qui a son expérience, qui discute avec ses amis et qui se fait une opinion. Et ce dont a besoin dans une société, c'est ça. Donc, je trouve que la nuance dans vos propos et le respect de l'autre, pour ce qu'il est, c'est quelque chose d'important que vous faites bien passer. Puis je voulais dire, sur la dernière partie, pas plus tard que ce soir, à l'église Saint-Sulpice, à Paris, on organise un concert avec le RQM de Mozart, avec l'association Tenir la main, donc l'Espace éthique Île-de-France et l'association Tenir la main, qui réunit des personnes endeuillées. Et donc en hommage aux 118 700 victimes de la Covid-19. Donc c'est quelque chose pour moi de fondamental. C'est-à-dire, on n'est pas à déplorer des anonymes, on déplore des personnes qui parmi nous, et pas uniquement les personnes qui sont mortes de la Covid-19, mais les personnes qui sont mortes dans ces temps de Covid-19, sans la reconnaissance, sans l'accompagnement, oui, avec des obsèques qui ont quelquefois été très discutables. Donc, merci de votre intervention. Et voyez à quel point c'est intéressant d'être dans Sud Radio. On a à la fois du contenu à travers notre échange, et puis vous avez des prises de position, puisque je vous écoute, qui sont quelquefois plus entières. Mais je dis aux auditeurs, vos positions, elles sont toutes respectables. Et avoir une opinion, c'est respectable. Mais il faut faire, dans une démocratie, aussi l'effort de l'argumentation. C'est-à-dire, une fois que vous avez une opinion, essayez de la confronter à d'autres. Et on voit, à travers l'intervention de Jean-Paul, que les choses ne sont pas ou blanc ou noir. Il rend hommage, à certains égards, au gouvernement sur certains points. Il le conteste sur des prises de position qui étaient abruptes et qui ont été contradictoires. Mmh. On l'a vu aussi avec Olivier Véran récemment, sur l'histoire du pass vaccinal, que j'appelle pass vaccinal alors que c'est le pass sanitaire, sur l'obligation ou pas obligation. Chacun est dans une approximation. Il faut aussi reconnaître que c'est difficile de gouverner. Et ce que Jean-Paul a dit, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est pas d'avoir tergiversé parfois. C'est une forme d'arrogance et une sorte de mépris qu'on a ressenti les uns et les autres. Puisqu'il nous fallait attendre, comme ça a été le cas mardi dernier, il fallait attendre que l'oracle s'exprime et nous dise, d'une manière un peu sentencieuse, même s'il met les formes, parce qu'on a un grand esprit comme chef de l'État, il fallait attendre l'oracle pour savoir dans quel sens on allait aller. Et encore une fois, si demain on nous annonce nouveau une intervention. Vous savez qu'il y a différents niveaux dans les interventions. Il y a celle du Premier ministre, celle du ministre de la Santé, mais il y a l'intervention supérieure qui est celle du chef de l'État. Si on nous annonce demain une nouvelle intervention du chef de l'État, on aura quoi s'inquiéter. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on gère une crise sanitaire qui nous touche aussi profondément.
Emmanuel Hirsch, vous restez avec nous jusqu'à 14h. On remercie Jean-Paul qui nous a appelé de Draguignan. Et nous accueillons Antoine de l'Aude. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Bonjour messieurs. À vous Antoine. On vous écoute.
Eh bien, c'est très simple. Autant je partage en partie, je dis bien en partie, les propos de l'interlocuteur précédent. Il y a eu un autre interlocuteur qui m'a fait réagir auparavant et qui se plaignait et qui accusait, c'est tout juste si on n'était pas voué au bûcher parce qu'on refusait d'être vacciné, ce qui est mon cas. À mes 70 ans et vu ma santé, je suis la doxa officielle de ces messieurs qui nous ont menti pendant tant de temps. Alors on va dire, oui, on ne savait pas, mais quand on ne sait pas, on consulte tous les scientifiques et non pas ceux d'un seul bord, inféodés et qui ont tant de conflits d'intérêts. Bon, je dis bien, on consulte tout le monde et on ne jette pas ceux qui ne sont pas d'accord. Eh bien, moi, pour moi, ça a été, grâce à Dieu, une petite grippette au début octobre. Ça m'ennuyait, aucun signe vraiment, etc. Et je l'ai eu, je l'ai attrapé grâce à un monsieur qui avait ces deux vaccins et qui était tout fier. Je suis complètement protégé et je ne peux pas transmettre parce qu'il suivait, bien sûr, la doxa et les messages publicitaires que le gouvernement fait passer dans la radio et télé. Et bien voilà, et je n'ai pas eu, j'ai été protégé parce que ça fait un an et demi que j'ai renforcé mes défenses immunitaires et dès que j'ai eu quelque chose, j'ai grâce à Dieu un médecin qui soigne. Et comme on n'a pas laissé les gens, les médecins soigner, c'est-à-dire diminuer les effets et diminuer la gravité avec différentes solutions, que ce soit l'azithromycine, que ce soit l'ivermectine, qu'est-ce que vous voulez, regardez les résultats du Japon actuellement et de l'Inde, etc. Laisser les gens soigner, laisser les médecins faire leur boulot. Et alors, Antoine, quand cette personne auparavant me disait que c'était son père, hein, l'infarctus, etc., etc., la seule chose que je demande, et j'en termine là,
rapidement,
comme disait un président décédé, foutez la paix aux Français, laissez-nous vivre, on est assez surveillés, fichés, tracés, il y en a marre, foutez-nous la paix, on sait ce qu'on veut. Moi, j'ai été vacciné, des raisons professionnelles, la fièvre jaune...
Antoine, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, je voudrais juste écouter une petite réponse de Emmanuel Hirsch pour conclure.
Je respecte la position d'Antoine. D'abord, elle est aussi forgée à travers son expérience. C'est le regard qu'il porte sur la situation. Si Antoine, demain, est président de la République, hein, c'est peut-être quelque chose qu'il envisage pour la suite, ben peut-être qu'il aura une position en tenant compte aussi de l'intérêt plus général. C'est-à-dire en se disant, effectivement, on doit respecter chacun autant que faire se peut. Dès lors qu'il est respectable. Mais je donne juste un exemple, et je termine vraiment sur ce point. Si par bonheur ou malheur, demain, vous vous trouviez dans un établissement comme un EHPAD et que vous vivez en collectivité, est-ce que votre choix d'être ou pas vacciné se situera de la même manière en termes de libertés individuelles? Merci en tous les cas, et c'est ça qui est l'éthique, et de merci. Nous avoir posé des questions.
Merci à vous Emmanuel Hirsch d'avoir été avec nous pour cette discussion passionnante. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette discussion.
Tout à Maxime. Fait, merci Arthur, et bon week-end. On se retrouve lundi, André Berkoff est de retour. Le flash de 14h et Brigitte Lèche jusqu'à 16h. Bon week-end.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.